Donc vous avez tout ici un lien avec le MBSR ou le MBCT ou d'autres formes de pratiques. En réfléchissant à ce qui pourrait, à mon avis, être utile, sans même vous connaître, donc ce n'est pas un exercice facile, je me suis dit que de revisiter les bases, d'abord revisiter les bases, c'est toujours important. Toujours important. Quand j'étudiais la musique classique indienne, j'allais, donc j'étais à Bénarès en hiver, j'y étais plus ou moins en 3 et 4 mois, j'avais 5 cours par semaine, et à chaque cours, quand j'arrivais devant mon maître de musique, on faisait la première base d'improvisation que j'avais vue le premier jour quand je l'ai rencontré, il me la faisait rejouer devant lui, da da tété, da da tina, ta ta tété, da da dina, et ça à chaque fois. À chaque fois, on revenait, et les premiers exercices qu'il m'avait donnés des années auparavant, il me les faisait rejouer tous les jours devant lui. Et donc, ça fait des bases solides. Et ici, donc, la pleine conscience, que quelque part, toute vous facilitez dans des groupes, elle a des bases aussi, elle a des fondements dans une tradition. Et connaître ces bases et comprendre ces bases va aider à poser un cadre dans votre pratique, pour vous-même et pour les gens que vous accompagnez. Donc je me suis dit, voilà, peut-être qu'on pourrait revoir ensemble une certaine compréhension aussi des bases de la démarche du Bouddha. Et donc, vous connaissez probablement l'histoire du Bouddha, je ne vais donc pas la refaire, mais je voudrais revenir sur son premier discours à Sarnath, après qu'il ait, comment dit-on, trouvé l'illumination, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais voilà, il a connu cette expérience d'éveil, et il a, à Bodh Gaya, et après, à quelques centaines de kilomètres de là, il a marché pour aller retrouver des moines avec qui il était ermite à l'époque. Et c'est à eux qu'il a donné, en fait, qu'il a expliqué ce qui s'était passé pour lui et ce qu'il avait compris. Et ça, c'est nommé comme étant le premier discours où le Bouddha fait tourner la roue du Dharma, c'est le discours de Sarnath. Dans ce premier discours, moi je trouve ce premier discours absolument étonnant parce qu'il a posé toutes les bases de ce qui est encore à l'heure actuelle le bouddhisme pratiqué en un discours. Certains érudits disent qu'en fait, il lui a fallu déjà, il n'est pas parti tout de suite de Bodh Gaya où il avait eu cette expérience d'éveil, il lui a fallu du temps un petit peu pour digérer, comprendre et mettre en mots, parce que mettre en mots, ça prend du temps. Et puis, il lui a fallu ces quelques centaines de kilomètres de marche aussi pour mettre en mots, en fait, sa compréhension. Et donc, dans ce premier discours, la première chose dont il parle, c'est ce qu'il appelle les quatre nobles vérités, et qui sont, la première noble vérité étant c'est dukkha. Et dukkha, qui est souvent traduit comme la souffrance, mais qui peut être traduit peut-être parce que c'est plus large, comme la satisfaction. La première des nobles vérités, c'est la satisfaction. C'est le fait que l'humain ne trouve jamais une satisfaction totale, pérenne, ultime et inébranlable. Il y a toujours une dose d'insatisfaction. Et si on y regarde, même dans les moments où on est les plus satisfaits, en fait, si on regarde en détail, si on est précis, on verra qu'il y a quand même un ingrédient d'insatisfaction. Ne serait-ce déjà que dans le fait de savoir qu'à un moment ça va s'arrêter. Ne serait-ce que ça. Mais il y a d'autres choses aussi qui restent présentes en nous, comme les fenêtres d'ordinateur qui sont. Vous savez, quand on a beaucoup de fenêtres qui sont ouvertes, mais qu'on ne les voit pas, on a notre écran, et là on a une situation peut-être idyllique, mais il y a d'autres choses qui sont ouvertes en nous. Voilà, des fenêtres qui ne sont pas fermées et qui travaillent dans les profondeurs de nous-mêmes. Donc, insatisfaction, dukkha, la capacité de l'humain à trouver une satisfaction ultime dans son quotidien. Et puis, la deuxième des nobles vérités, c'est les causes. Les causes, quelles sont les causes, en fait, de cette insatisfaction? Et vous remarquerez, en fait, que c'est la démarche médicale. D'ailleurs, il est appelé le roi médecin, parce que, bon, voilà, il y a la maladie, hein, le dukkha, et puis après ça, quelles sont les causes en fait de l'insatisfaction, et on va y venir. Et puis après, il y a la possibilité en fait de se guérir, la cessation, la fin de l'insatisfaction. Et ça, c'est la troisième noble vérité. La quatrième, c'est les chemins qui mènent à la cessation de l'insatisfaction. Et ça, c'est vraiment le fondement, la base. Et la pleine conscience va faire partie de ce protocole en fait. Dans les causes de l'insatisfaction, on va souvent nommer L'avarice, la haine et l'illusion. C'est souvent ce qu'on apprend, avarice, haine et l'illusion, sont les trois causes en fait de dukkha, de la satisfaction. Et à cette cause, il y a une cause encore plus racine qui est l'ignorance. On va parler de la racine de dukkha, la racine de la satisfaction de l'homme, c'est en fait qu'il ignore. Qu'est-ce qu'il ignore? Eh bien, il ignore profondément qui il est, l'humain. On ignore en profondeur qui nous sommes. On ne sait pas vraiment. Souvent, on imagine l'ignorance comme c'est juste quelque chose qu'on ne sait pas, mais on ne sait pas qu'on ne le sait pas, et puis voilà. Et puis après, il y a les choses qu'on sait. Mais en fait, ce n'est pas exactement ça. En fait, l'ignorance, c'est ce que le neuroscientifique Albert Mukeber, certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui est assez en vogue pour le moment, appelle l'illusion performative, je pense. Performative ou performatrice? Performative, à mon avis. C'est-à-dire qu'en fait, quand on ne sait pas, on imagine, et ce qu'on imagine a un impact sur nos décisions, sur nos émotions, sur ce qu'on ressent et sur ce qu'on fait et sur ce qu'on pense. Donc, si on regarde un petit peu l'ignorance, le fonctionnement de l'ignorance, c'est que nos perceptions, nos cinq sens, on sait qu'on perçoit très très peu. Donc, par les cinq sens, on perçoit des vibrations, des ondes, et on perçoit très très peu, une petite échelle d'ondes, et il y a énormément de choses qui se passent et qui sont inaccessibles à nos sens. Donc, en fait, à travers nos sens, c'est là, en fait, on fabrique une histoire à propos de ce qu'on perçoit, et on perçoit en fait très peu de la totalité de ce qui est là. Donc on a une perception limitée, en fait. On n'a pas la totalité. Et de ce qui est perçu par les cinq sens, il y a un chemin qui est fait pour, et c'est envoyé au cerveau, et c'est le cerveau qui va reconstruire une histoire. Les neurosciences sont maintenant très très claires du fait que ce qu'on perçoit, et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire notre moment présent, nos perceptions dans le moment présent, c'est une proposition du cerveau en fonction de ce qu'il a imaginé que ça pouvait être, en fonction des informations qu'il a reçues de l'extérieur. Donc déjà, ça veut dire que notre moment présent ne se passe pas exactement dans le moment présent, parce qu'il y a eu tout un trajet qui a été fait, notamment qui passe par la mémoire. Il y a eu une reconstruction de la perception, et c'est ce que le best guess, comme ils disent les neuroscientifiques, c'est-à-dire c'est la meilleure proposition que le cerveau puisse faire en fonction des connaissances que nous avons, que lui, il a. Connaissances implicites qui ont été héritées depuis des milliers d'années et connaissances contextuelles qui sont, suivant la situation, qui sont des connaissances sociétales ou familiales ou personnelles, en fonction de nos expériences. Donc en fait, notre perception, la perception qu'on a, elle est à la fois très très limité parce qu'il y a énormément de choses qu'on ne perçoit pas avec nos cinq sens. Nos cinq sens ne sont pas faits pour percevoir la totalité de ce qui se passe là-dehors. Et en plus, ce qui est perçu est reconstruit et proposé en une forme quelconque. Et là, l'ignorance, c'est de croire que ça, c'est la totalité et la réalité. La totalité et la réalité. Donc on donne le cachet d'authenticité à quelque chose qui, en fait, est une proposition, une histoire incomplète. Ne sachant pas qu'elle est incomplète, ne sachant pas qu'elle est racontée, nous la prenons pour une réalité ultime. Et ça crée cette histoire du stress, des émotions, de la réactivité. Et aussi, on a besoin de faire ça. Elle est nécessaire. Ce fonctionnement, en fait, il est parfait. On a besoin de ce narratif pour pouvoir évoluer dans ce monde. Mais de ne pas savoir que ce narratif est un narratif est problématique. De ne pas se rendre compte que c'est un narratif, que ce n'est pas une vérité ultime, est problématique. De considérer cette réalité perçue comme la réalité, la seule réalité, à tous les niveaux, notre réalité intérieure, de croire que intuitivement, la manière dont je vois le monde, c'est la manière dont vous, vous voyez le monde, déjà est problématique. Parce qu'on a tous notre individualité et tous une certaine manière de voir le monde. Et puis après ça, au niveau de croire que la manière occidentale de voir le monde est la manière de toutes les, de toutes les civilisations, c'est problématique. La manière de croire que la manière dont les humains perçoivent le monde, c'est la manière dont les animaux perçoivent le monde, c'est problématique. De ne pas se rendre compte en fait que cette perception est une fabrication, que la perception est... Alors on ne peut pas dire que c'est que une fabrication. Ça, on y viendra plus tard. Donc le Bouddha est venu vers ses cinq disciples, qui sont devenus ses disciples. Avant, c'était ses collègues, hein, ils mangeaient des racines ensemble et ils cherchaient à se libérer du désir. Et donc ça, c'était 4 ou 5, je suis plus sûr. Et donc il a expliqué que la racine de la souffrance, la racine de la satisfaction, c'était l'illusion d'ignorance. L'ignorance. L'ignorance crée l'illusion de savoir. L'ignorance, on ne peut pas vivre tout le temps comme si on était ignorant parce qu'on est paralysé, en fait. Donc on est obligé d'avoir des propositions constamment de réalité qui fonctionnent. Mais que c'est de ne pas savoir, en fait, que ce sont des propositions d'esprit plus que des réalités ultimes crée la sensation de souffrance, l'émergence de la souffrance. Il a dit, et pour sortir les chemins qui mènent à la cessation, en fait, sont multiples. Il y en a 8. Il a été très structuré, le Bouddha. Il a fait les 4 ceci, les 8 cela, les 16 ceci, les 10 cela. C'est pour ça que le bouddhisme est bien passé en Occident, beaucoup plus que l'hindouisme avec 33 millions de dieux et toutes ces couleurs et toute cette incohérence. Et le bouddhisme, c'est très structuré, ça correspond bien à notre manière de penser. Donc on a les 4 nobles vérités. Maintenant, on a le sentier octuple des nobles, ou le noble sentier octuple, hein, donc les 8 chemins. Il a distingué 8 chemins qui fonctionne comme un. C'est-à-dire que les 8 ne font qu'un, mais il est nécessaire de les distinguer. Alors ces 8 chemins, le premier, c'est la compréhension juste. Alors la compréhension juste, là, il y a déjà plusieurs manières de comprendre ce que veut dire compréhension juste. Une manière de comprendre compréhension juste, eh ben, il y a une manière de comprendre ce monde, et c'est la bonne manière, parce que le monde, il est comme ça. Ça, c'est une compréhension, on va dire, ontologique. Cette manière-là, c'est la manière de comprendre le monde. Ça, c'est souvent, elle est expliquée comme ça, le monde, par exemple, les vacuités, mais ça peut très vite glisser vers du dogmatisme. Parce que différentes traditions vont avoir différentes compréhensions justes et dire le monde, en fait, il est comme ça. Ici, on a Dieu, ici, on a Pachamama, ici, on a la vacuité. Ici... Donc ça, c'est problématique. Une autre manière de comprendre ce que veut dire juste, veut dire qu'une compréhension juste, et vous verrez que après ça, on a d'autres, on a la pensée juste, etc. Une compréhension juste, c'est une compréhension qui ne construit pas de souffrance. C'est une compréhension qui ne construit pas de souffrance pour nous-mêmes, pour autrui, ni maintenant, ni plus tard. Si, dans une situation quelconque, on peut trouver une compréhension, c'est-à-dire une manière d'interpréter cette situation, qui ne va pas construire de souffrance, ni maintenant, ni plus tard, ni pour moi, ni pour autrui, cette compréhension, cette manière de voir, cette interprétation de la situation est juste. C'est celle qui va être la plus fructueuse. Ça ne veut pas dire qu'elle est vraie, ça veut dire qu'en fait, elle est fructueuse, il est fructueux de voir les choses comme ça. Après tout, c'est ce qu'on fait. On voit le monde d'une certaine manière qui nous permet de le naviguer. Eh bien, on peut voir toute situation d'une certaine manière qui permet de naviguer avec amour, avec compréhension, avec ouverture, avec tolérance, sans créer de souffrance ni pour nous-mêmes, ni pour autrui. Cette compréhension, cette manière de voir le monde, cette manière de nous voir nous-mêmes, cette manière de voir la relation, elle est juste. Pas parce qu'elle est ultimement juste et vraie, mais parce qu'elle est fonctionnelle. Ensuite, nous avons la pensée juste ou l'attention juste, il y a différentes traditions, et qui va être, par exemple, comme je le disais, l'attention dans la méditation, ou ça va être un regard, en fait, c'est d'apprendre à vivre avec des attentions qui ne vont pas créer de la souffrance, qui ne vont pas créer ni pour nous-mêmes, ni pour autrui. Hein, l'attention juste, c'est une intention qui va, quelque part, on pourrait dire aussi être noble. Hein, donc il y a une compréhension juste, et développer la compréhension juste est essentiel dans le chemin du Bouddha, et développer l'intention juste est tout aussi essentiel, et en lien bien sûr. Après, nous aurons la parole juste, la manière de parler, pourquoi on parle, ce qu'on dit, quand on le dit, pourquoi on le dit. Hein, un regard sur tout ça. C'est nécessaire, en fait, de regarder ça pour se libérer de dukkha. On ne peut pas se libérer de dukkha si on ne fait pas attention à la manière dont on parle. Ça fait partie du kit complet proposé par le Bouddha, le Eightfold Path. L'action juste, hein, toujours, qui ne crée pas de souffrance ni pour moi ni pour autrui. Le moyen d'existence juste. L'effort juste, alors là il y a plusieurs manières de le comprendre. C'est de s'impliquer dans le développement personnel quelque part. L'effort juste, le fait de transformer notre personne en une meilleure personne, l'effort juste. Il y a d'autres choses à dire à propos de l'effort juste, mais je vais essayer d'aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Après, nous avons la pleine conscience juste, et voilà, où elle apparaît pour la première fois, en fait, la pleine conscience. C'est là qu'elle apparaît pour la première fois dans les enseignements. Elle apparaît dans ce corps des huit sentiers. Elle est un des huit sentiers octuples. Un des sentiers, oui. Sati. Et la concentration juste, samadhi. La concentration, ou parfois c'est traduit comme méditation juste. Donc pleine conscience juste, méditation juste. Ces huit sentiers, ces huit chemins, sont interdépendants. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut pas vraiment pratiquer la pleine conscience sans... Je vais revenir un petit peu en arrière. D'abord, ces huit nobles vérités sont distinguées, si vous avez remarqué, il y a trois catégories. La compréhension juste et la pensée juste, c'est la catégorie de la sagesse, on l'appelle. Hein, la compréhension et la pensée sont dans la catégorie de la sagesse. Et puis après ça, on a l'éthique, la parole juste. Ah, c'est plus une notion d'éthique, l'action juste et les moyens d'existence juste. C'est des considérations éthiques de comment on vit, de comment on interagit. Donc on a la sagesse, compréhension, pensée, on a l'éthique. Après l'effort juste, la pleine conscience juste et la concentration juste, c'est plus la partie méditation. Et ces trois divisions interagissent dans ce sens que ce que ça veut dire, c'est qu'on ne pourra pas vivre pleinement la pleine conscience dans la mesure où on ne prend pas soin de notre éthique. C'est important de comprendre ça parce que ça veut dire que la notion de pouvoir se libérer à travers la pleine conscience sans faire attention aux dommages qu'on crée autour de nous, c'est incompatible. En fait, ce n'est pas possible. Et quand on y réfléchit, en fait, ça paraît évident. Ce n'est pas évident. Ça paraît complètement évident. Et quand je dis que c'est interdépendant, c'est parce que pour prendre soin de la parole juste et des moyens d'existence juste et de l'action juste, il faut la pleine conscience. Parce que c'est dans la pleine conscience qu'on va pouvoir pratiquer la parole juste. Donc en fait, sans pratiquer l'éthique, on ne pourra pas approfondir notre pratique de pleine conscience. Il y a des choses qui vont nous retenir. Vous voyez, si on n'a pas une éthique juste, pourquoi est-ce qu'on n'a pas une éthique juste? Parce qu'on peut-être on a un ego fort, on pense que après moi les mouches, comme on dit, c'est pas grave, si le monde souffre, moi je suis heureux. Hein? Ça, c'est un manque d'éthique. Mais avec,
Avec ça, qu'est-ce que ça entend, c'est heureux? Je suis heureux parce que j'ai ceci, parce que je voudrais cela, parce que je veux avoir ceci, parce que je veux avoir cela. Ben, tout ça empêche la pleine conscience, parce que c'est du désir, du désir, du désir. On n'a pas trouvé encore le bonheur dans la simplicité. Voyez le lien. Quand on n'a pas d'éthique, c'est parce qu'on cherche un bonheur égocentrique. C'est ça aussi une division du manque d'éthique. Et le bonheur égocentrique crée une agitation qui rend la pleine conscience inaccessible. Parce que qu'est-ce qui rend... Pourquoi est-ce qu'on est tout le temps distrait? Parce qu'on est tout le temps en train de chercher quelque chose. Si on apprend à un bonheur plus simple, on va automatiquement avoir un comportement plus éthique et un accès plus facile à une quiétude de l'esprit. Parce qu'on aura moins de besoins et donc moins... Ah, maintenant plus ceci, ah, maintenant je voudrais devenir cela, maintenant je voudrais acquérir ceci. Et toujours être en mouvement. Parce qu'on cherche, parce qu'il y a un mouvement égocentrique d'aller chercher des choses. Donc, on voit comment le fait de pratiquer l'éthique va nous simplifier. Il va y avoir aussi tout ce mouvement de culpabilité quand on n'est pas éthique, de critique intérieure. Quand on n'a pas une attitude éthique, on va avoir de la critique intérieure, on va avoir du doute, on va avoir de l'insécurité. Tout ça va nous empêcher de trouver la tranquillité dans la méditation et dans la nécessité d'un esprit calme pour pouvoir être pleinement conscient du moment présent. Donc en fait, le Bouddha, il nous a présenté 8 points qui progressent ensemble. Et on ne peut pas se dire, moi je pratique celui-là et je ne pratique pas les autres. On peut avoir une affinité et un chemin, donc il va y avoir... En Inde, il y a des gens qui vont pratiquer plus des karma yogis, qui vont se dédier au monde, qui vont se dédier au service. Il y a le chemin du seva, du service. Mais les gens qui vont se dédier au service, pour être vraiment dédiés au service, il va falloir voir qu'ils aient un regard à l'intérieur, si ce n'est pas un mouvement de l'ego, et qu'ils ne vont pas faire ça de manière à avoir de la reconnaissance, par exemple. Donc ils auront besoin de la méditation et de la pleine conscience de leurs pensées. Pour savoir s'ils ne sont pas en train de se raconter qu'ils font du service pour tout le monde, mais qu'en fait, c'est à leur propre service. Donc, en fait, on ne peut pas dissocier. On a besoin de ces 8 points et on a besoin de progresser sur ces 8 points. Et si à un moment, on bloque à un endroit, ça va bloquer aussi l'accès aux profondeurs de la méditation, l'accès à la profondeur de la pleine conscience. Pour voir aussi, pour voir en profondeur, pour aller plus à l'endroit authentique, en fait, nous, en tant que sujet chercheur, nous devons nous transformer. C'est Michel Foucault, en fait, qui mettait le philosophe, qui mettait ça en avant, comment l'accès à la vérité, il a fait, je ne me rappelle plus dans quel essai, il parlait en fait de l'évolution de la notion d'accès à la vérité. Et avant, il y avait toute une dynamique, toute une nécessité qui était mise en avant, que le sujet se transforme vers toujours plus de noblesse, et qu'au fur et à mesure que nous, en tant que sujet, nous nous transformons, alors notre regard sur le monde se transforme, et alors nous avons accès à plus de profondeur. Que nous puissions, sans nous transformer, avoir un regard de plus en plus beau et de plus en plus profond, est complètement illusoire. Ça revient à dire la même chose par rapport de nouveau à cette éthique. Et tout ça, bien sûr, en lien avec la compréhension. Donc vous voyez, ce noble sentier octuple, c'est d'une grande précision, c'est d'une grande sagesse, et c'est nécessaire de le garder à l'esprit pour voir si dans tous les tableaux, en fait, on bosse, si on bosse bien à tous les endroits, la parole juste, l'action juste, les moyens d'existence juste. Alors on peut pas être présent sur tous les fronts à tous les moments, mais de les avoir à l'esprit et d'essayer d'évoluer ici et là. Et parfois, même si notre pratique de méditation, on a l'impression qu'on est coincé, qu'on n'avance pas et tout ça, ben pourquoi pas aller bosser un petit peu ailleurs? Ça va débloquer la pratique de la méditation. Parce que quand le sujet se transforme, il perçoit autrement. Donc là, c'est un survol un peu global. Et maintenant, j'aimerais bien m'approcher un petit peu du point du septième dans l'ordre de...
de la liste du Bouddha, la pleine conscience, sati.
Quels sont les intérêts en fait de la pleine conscience? À quoi sert la pleine conscience dans le chemin du Bouddha?
Ben, des intérêts qu'on connaît tous.
La pleine conscience permet de ne pas permettre, on va dire, je cherchais la manière de le formuler, de ne pas permettre la prolifération. La prolifération des pensées, la prolifération des constructions, comme papancha, comme il l'appelle dans le bouddhisme. La prolifération, l'élaboration, le développement, l'étendue. Papancha, ça veut dire tout ça, en fait.
Donc la pleine conscience, en fait, qu'est-ce qui se passe? On est, par exemple, dans le quotidien, la pleine conscience de chaque chose qu'on fait. On va faire un mouvement, on sort le mouvement. Les exemples qui sont toujours pris, quand on marche, on sait qu'on marche. Quand on a les mains dans l'eau de la vaisselle, on sort la chaleur de l'eau de la vaisselle. En fait, le fait de passer à travers les cinq sens et de passer à travers ce qui est perçu maintenant fait que l'attention est ramenée ailleurs que sur les pensées. Et quand l'attention n'est plus dans les pensées, alors les pensées ralentissent. Je ne sais pas si vous l'avez déjà formulé ou entendu formuler ou vu comme ça, mais c'est quelque chose qui, moi, je trouve très intéressant en fait, de remarquer, et ça fait partie de cette expérimentation qu'on peut faire en méditation, c'est de voir que pourquoi est-ce que quand on amène notre attention sur la respiration, les pensées ralentissent? Parce qu'elles n'ont plus notre attention. À vous de vérifier. Mais quand on n'accorde plus d'attention aux pensées, les pensées ralentissent. Elles disparaissent, en fait, de notre expérience. Donc, nos pensées ont besoin de notre attention. Donc, la prolifération se produit parce que le contenu des pensées réussit à attirer l'attention. Souvent parce qu'il y a un lien émotionnel derrière. Et donc, souvent, on est en train de faire la vaisselle, et puis là, Papancha est lâché à bride abattue, et ça développe, et il y a des histoires et des mondes qui apparaissent dans notre conscience, qui sont vécus, hein, puisque tout ce qui apparaît dans notre conscience fait partie de notre vécu, et dans ce moment-là, notre vécu est très très peu la chaleur de l'eau ou le mouvement du lavage de l'assiette, et très très fort de cette histoire qui s'est passée avec notre voisin, ou de ceci, ou d'une ambition quelconque, ou d'une envie. C'est ça notre moment présent, c'est ça qui est vécu. C'est pas pancha, c'est des mondes très vastes, très grands, très impactants, et la pleine conscience permet en fait de quitter ces mondes. Parfois, il est important de laisser cette pensée élaborer, mais souvent c'est quand même du grand n'importe quoi, on est bien d'accord là-dessus, et du coup ça va générer énormément de souffrance, de stress, de dukkha. Et donc la pleine conscience va permettre d'empêcher un certain degré de construction pour revenir à une plus grande simplicité, pour revenir à quelque chose de plus authentique. Comme on l'a fait dans l'exercice de ce matin, en fait, il y avait deux objectifs. Il y avait un objectif qui était d'essayer de rester pleinement avec la respiration, avec un esprit apaisé, sans distraction. Et le deuxième objectif, c'était de voir ce qui se passe quand on essaye ça. De la même manière, la pleine conscience, d'une certaine manière, va permettre d'apaiser la prolifération, et donc de diminuer le contenu émotionnel et stress et autres, comme vous connaissez bien, mais aussi va nous permettre, si on a ce type de regard et ce type d'interrogation, ça va aussi nous permettre de voir ce qui se passe quand la pensée est ralentie, de voir ce qui se passe quand la prolifération et les constructions mentales ralentissent. Et ce qui se passe, je le pointe du doigt, mais c'était quelque chose à voir et à revoir et à réaliser encore et encore et encore. Ce qui se passe, c'est que quand il y a un lâcher-prise, parce qu'il s'agit d'un lâcher-prise, on lâche prise sur des histoires, en fait. Quand il y a un lâcher-prise pour revenir à ce qui se passe dans le moment, il y a moins de construction. Donc, il y a aussi moins d'identité. C'est-à-dire que notre identité très, très construite est amoindrie. Réduit. Notre sens de qui on est, déjà les histoires de nous-mêmes apparaissent beaucoup moins. Donc dans notre moment présent, dans notre espace de conscience du moment présent, phénoménologiquement, dans notre expérience du moment présent, il n'y a plus ce type d'identité. Dans le moment où on est juste en pleine conscience,
en marchant dans une forêt, à partir du moment où on ne ressasse pas des histoires, il y a toute une partie de notre identité qui n'est pas là. Elle n'est juste pas là. Elle n'est juste pas là. On ne fait pas l'expérience de l'endroit où on est né, on ne fait pas l'expérience de notre métier, on ne fait pas l'expérience de si on a des enfants ou pas d'enfants, de nos échecs et de notre succès, tout ça, ça n'est juste pas là. Parce que pour être là, il y a besoin de cette prolifération. Et donc il y a tout un degré d'élaboration de notre identité qui n'est plus là, qui disparaît. Et avec cette disparition, disparaît toute une partie de mal-être, de les tensions qui vont avec. Et donc la pleine conscience va aussi servir à quitter de manière à trouver du repos, mais aussi à quitter de manière à voir en fait ce mouvement de l'identité, cette construction et cette déconstruction constante de notre sens de nous-mêmes, de cet endroit où on se trouve, comme on prend souvent les couches de l'oignon, et où on se trouve dans notre sens d'identité. C'est Nagarjuna qui disait un moine qui est très qui a beaucoup exploré la vacuité, qui a beaucoup impacté le bouddhisme en fait, et qui disait moins de soi, donc moins de, on pourrait l'entendre par moins de construction d'identité, moins de soi, moins de dukkha. C'est aussi simple que ça. Plus de soi, plus de dukkha. Okay. Et alors, la pleine conscience nous amène à une certaine déconstruction. Dans le moment, n'imaginons pas ça comme une déconstruction, ça y est, je déconstruis le moi, et puis il sera plus simple pour tout le restant de ma vie. Laissons le restant de ma vie de côté pour le moment, et parlons juste du moment présent. Dans le moment présent, le moi a une échelle d'expression. Parfois il est plus comme ça, parfois il est plus comme ça. Ça peut être, parfois il est plus joyeux, parfois il est plus colérique, parfois il est plus ceci, parfois il est plus cela, parfois il est plus en attente, parfois il est plus en demande, parfois il est plus généreux, parfois il n'est pas généreux. Ça peut être tout ça, mais ça peut être aussi, parfois il est juste plus là et parfois il est juste moins là. Et quand il est moins là, alors il y a une sensation plus expansive, plus en unité avec ce qui nous entoure, plus en harmonie, moins conflictuelle, moins réactive, plus satisfaisante, plus authentique. Et ça, de le constater et de le comprendre. Parce que, en fait, et c'est ça c'est une des choses que j'ai envie de vous amener, c'est que c'est la compréhension de ce phénomène qui va libérer, c'est pas l'expérience. Parce qu'elle va influencer nos manières de nous comprendre. Et c'est nos manières de nous comprendre et de comprendre le monde qui va amener à la cessation de l'illusion, qui est la racine identifié par le Bouddha, en tout cas, dans son système, qui est la racine de dukkha. Donc la compréhension, en fait, quand on pratique la pleine conscience, on peut pratiquer la pleine conscience de la construction du soi. Pas simplement de la respiration ou de l'arbre qui pénètre par nos yeux ou de quoi que ce soit qu'on soit en train de faire. C'est aussi de voir, c'est ce second regard en fait, de voir la construction du soi, de voir oui, parfois on parle de météo intérieur, oui, de comment le soi est en ce moment, mais aussi de son intensité. Il y a des moments où il y a très peu de soi. Et ça va aller encore beaucoup plus loin dans la méditation. Samadhi, hein, parce qu'il y a sati, la pleine conscience, et samadhi, la méditation. Là, le Bouddha nous entraîne dans une déconstruction encore beaucoup plus importante. Parce que même quand on est en pleine conscience, il reste de la construction. Même la plus pure des pleines consciences est encore, et avec l'authenticité de ce qui se présente dans le moment présent, reste encore une construction. En pleine conscience, je vois une fourchette, mais une fourchette, c'est une construction. Parce qu'en fait, c'est un bout de métal. Fourchette, c'est déjà la mémoire qui vient me dire ce qu'est cet objet. Et ça, je le vois exactement dans mon moment préalable. La première perception que j'ai, c'est fourchette. Et c'est déjà une construction. Et la méditation permet, ça m'a dit, permet d'aller plus loin encore dans la déconstruction. J'y reviendrai plus tard à cette déconstruction en méditation. Inch'Allah, j'espère qu'on aura le temps d'aller vers là aussi. Important de retenir pour moi, parce que c'est, en tout cas, j'ai envie de partager avec vous ce qui m'inspire, et ce qui m'inspire, en fait, c'est ce chemin qui permet, en fait, de se connaître, de connaître l'identité, et de voir cette émergence de l'identité construite, et de voir ce qui reste de nous-mêmes quand il y a moins d'identité construite. Pour permettre plus ce qu'on pourrait pour le moment appeler l'expérience de notre essence, ou plus aller vers une expérience de l'essentiel, d'aller vers le moins construit. Pas pour y vivre, c'est impossible. Pour remarquer, en fait, ce mouvement qu'on appelle l'identité. On a l'impression que c'est une seule chose. Moi, c'est comme si on savait qui on était, comme si on était une chose. Mais en fait, c'est une expression constante. Alors, pour nous permettre d'aller plus en profondeur dans notre méditation, dans nos moments de pleine conscience, le Bouddha a proposé pas mal de pratiques. Toutes ces pratiques, en fait, toutes des pratiques qui visent à nous permettre de lâcher prise. Lâcher prise sur les constructions, lâcher prise sur la sensation de réalité des constructions. Hein, c'est ça, c'est pas, les constructions en elles-mêmes ne sont pas forcément problématiques. Hein, c'est la manière dont on les investit d'une réalité ultime qui est problématique. Et donc, de nous permettre à la fois de lâcher prise et de faire l'expérience de quelque chose qui se pose vraiment de plus en plus en profondeur, de faire l'expérience de nous-mêmes avec de moins en moins de construction. Il a proposé tout un tas de pratiques qui peuvent être comprises comme des manières de voir. J'espère avoir le temps de développer ça un petit peu plus tard. Mais là, pour le moment, je voudrais proposer une de ces pratiques. Voilà, dans la méditation guidée qui va suivre, c'est autour d'une notion que tout le monde connaît et très certainement vous, puisque vous enseignez la méditation pleine conscience. Et donc c'est une pratique autour de l'impermanence. Alors l'impermanence, c'est une évidence. Une évidence dont on ne parle jamais, que les choses ne durent pas, on le sait, que rien ne dure, on le sait, qu'un jour on va tous mourir, on le sait, mais on ne vit pas comme si on le savait. Parce qu'en fait, entre savoir et vraiment intégrer, il y a un chemin qui peut être long et complexe, et parfois même, on ne sait pas trop comment on intègre. Et là, le Bouddha, il propose un chemin pour intégrer la conscience de la permanence dans notre regard. Et ça, c'est extrêmement libérant. Et en plus, la capacité de voir l'impermanence, la capacité de voir que les choses sont impermanentes et de relationner aux choses sachant qu'elles sont impermanentes, a tout un tas d'avantages très basiques, comme par exemple de moins s'attacher, comme par exemple de plus pouvoir s'engager, comme par exemple de plus faire l'expérience de ce qu'on aime. Un ami nous rend visite, on sait que ça ne va pas durer, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, il va bientôt repartir. On sait que c'est impermanent, on va le vivre différemment de si on n'a pas vraiment conscience, en fait, de la permanence de ce moment. On a un repas qu'on aime beaucoup, si on est conscient qu'à un moment l'assiette va être vide, on va goûter beaucoup plus le repas que si on le mange tout en sans avoir cette conscience. En fait, ça va nous permettre de lâcher prise. D'autres choses vont nous paraître très, très importantes et du coup, on va rater notre repas. Mais là, on se rend compte que le repas, il est intéressant parce que c'est vraiment le repas qu'on aime, il est important. Et du coup, ça va nous permettre de lâcher prise sur autre chose. De la même manière, s'il y a des choses qui sont difficiles à vivre, de savoir qu'elles sont impermanentes, de savoir que rien ne dure, en fait, nous permet d'avoir une mise à distance qui nous permet de mieux les vivre. C'est très utile. De vivre la paix, ça nous permet en fait de nouveau d'avoir moins le mouvement de saisie, de je veux que ça dure, ça je veux que ça s'arrête et tout ça. On est plus posé, quelque chose émerge, on en profite pleinement, mais on sait que ça ne va pas durer, donc on en profite pleinement. Et quelque chose est désagréable, en méditation il y a une douleur, par exemple, on sait que ça ne va pas durer et du coup on arrête de devenir fou avec cette douleur et d'essayer de faire quelque chose absolument. Voilà.
En gros, hein, je vous le fais bref. De nouveau, tout ça, il y a encore moyen de développer énormément, mais vous connaissez, je pense. Mais la permanence aussi a un autre avantage qui, à mon avis, est très important, c'est que c'est le chemin royal. Déjà, c'est le meilleur rapport qualité-prix du Dharma pour moi, parce qu'on sait tous très bien ce que ça veut dire, et en même temps, ça nous permet d'accéder à une grande profondeur, à beaucoup de lâcher prise. Et de là, on pourra comprendre la vacuité, qui est quand même le big projet du Bouddha. Hein, la vacuité, c'était son dada quand même. Hein. C'était ce qu'il essayait d'enseigner dès que les jeudis sortaient, que les gens étaient à peu près. C'est vers là qu'il voulait leur dire. Et donc, la conscience de la permanence, la compréhension et le fait de vivre avec la conscience de la permanence nous prépare, en tant que transformation de sujet, je parlais de la transformation du sujet, pour pouvoir en fait faire, ah ouais, c'est ça la permanence. Et en fait, c'est le méga lâcher prise, la permanence. J'espère que je vous l'ai bien vendu. Merci pour votre écoute. Et un petit mot de la fin. Soutenu par l'association Dharma Nature, je fais le choix de proposer ces discours de façon libre et non commerciale. Si vous appréciez les écouter, s'ils vous sont utiles, pensez à nous soutenir de temps en temps avec un don que vous pouvez envoyer depuis le site www.dharmanature.org. Sachez qu'aucune somme n'est trop petite, car votre démarche exprime votre considération et ça fait vraiment plaisir. Je vous souhaite une belle journée et une belle pratique.